Yaya,
ni poule mouillée,
ni poule de luxe, les deux mères poules de Principe Actif.
Avec les mères poules, c'est trop cool!
Eh bien, bonjour à tous.
Bonjour.
Donc, nous continuons avec notre thème sur les enseignements alternatifs. Donc, suite numéro 2.
Bon, on pourrait en faire beaucoup. Hein.
Oui, bah oui, c'est, voilà. Non, non,
c'est peut-être la dernière.
Je crois qu'il y en a une autre après, parce que j'ai quand même trouvé des trucs incroyables. Donc,
des trucs particuliers. Voilà, ça peut être drôle
donc,
aussi.
Mais donc là aujourd'hui on va parler un peu plus donc de Célestin Freinet et aussi donc de Ovide Jean de Crowley. Vous savez, celui qui a inventé la méthode globale, voilà. Alors je vous propose d'abord, on va écouter une petite chanson comme d'habitude, l'école buissonnière. Et alors j'ai pas noté le gars qui chante et je me rappelle pas du tout de son nom. Bon, donc vous m'en excuserez, voilà. Et ensuite, je vous passerai directement un petit interview, de Sophie, qui, en CP, a eu la méthode Freinet, et qui est en CE2 aussi. Alors, je ne sais pas trop quelle méthode c'était, mais enfin, son instituteur était assez...
Rock'n'roll.
Voilà. Alors, elle va donc raconter son expérience. Alors, tout de suite, l'école buissonnière.
C'est à vous.
Moi, c'est Sophie, j'étais en CP en 93 et j'ai appris à lire avec la méthode Freinet, qui consiste à passer outre l'alphabet et à apprendre à lire un peu mot par mot. Donc au début de l'année, on a tous eu une petite boîte, je me souviens c'était une petite boîte transparente, avec quelques mots à apprendre par cœur, et au fur et à mesure de l'année, cette boîte se remplissait avec de plus en plus de mots qui se ressemblaient, qu'il fallait pas confondre et tout ça. Et avec tous nos mots, on pouvait faire des phrases ou même des petits textes racontant notre journée ou nos vacances. Donc c'est une technique qui a plutôt bien fonctionné, j'imagine, puisqu'à la fin de l'année, tout le monde savait lire, dont moi. Je me souviens plus exactement des techniques, mais la boîte à mots était vraiment notre principal outil. Tout ça sans jamais apprendre l'alphabet, même si je l'avais appris quand même chez moi. Mais effectivement, c'était pas un frein de ne pas le connaître pour savoir lire et faire des textes. Ensuite, en CE2, ma meilleure année de primaire, j'avais un instinct plutôt original. On pourrait dire que c'était peut-être là une méthode Montessori, dans le sens où je ne me souviens pas avoir eu de contrôle ou de notes sur toute l'année. C'était vraiment apprendre en s'amusant, on faisait beaucoup d'activités, chacun avait des tâches par jour ou par semaine, s'occuper des plantes, venir avec ses rollers pour distribuer et ramasser les cahiers, donc c'était peut-être un exercice d'équilibre, choisir des chansons en anglais, ramener des films, faire des petits exposés sur ce qui nous intéressait. Je me souviens que sa fille venait nous lire des histoires. On a fait plusieurs fois des sorties d'orientation pour apprendre à se repérer dans notre ville. On faisait beaucoup de jeux de société aussi. On devait sûrement travailler un peu plus que dans mon souvenir, mais voilà, c'était vraiment qu'une année de fun. On faisait quelques exercices de maths, mais on pouvait choisir l'exercice qu'on voulait et aller le faire corriger à son bureau. Donc une année qui m'a vraiment réconciliée avec l'école, puisque j'avais eu un CE1 plutôt terrible, enfin plutôt classique, hein, s'endormir sur les cahiers de lecture, très redondant. Je pense qu'en primaire, c'est important d'avoir cette petite part d'amusement, de se sentir bien. En tout cas, dans cette classe de CE2, personne ne se sentait effacé ou rejeté. On faisait tout en groupe et dans la bonne humeur.
Oui, qui était... Donc voilà le témoignage de Sophie.
Ouais. Alors, pour info, j'ai chasamé la chanson. C'est Louis Talon, qui est un auteur-compositeur actuel. Voilà. Qui,
très bien.
Voilà.
Et donc, tu ne disais pas qu'il était instituteur ou,
Non.
Non, ah, non, c'est moi qui... Ah bon, bah,
non, mais il a fait une autre chanson qui s'appelle « Ma mémé ». Si on fait une émission sur les grands-mères,
on pourra
peut-être écouter cette...
Bon, bah très bien. Donc, voilà. Alors, voilà, donc on va parler un peu donc, de Célestin Baptistin Freinet, donc qui est un pédagogue français, qui est né en 1896, donc ça remonte quand même, et il est mort en 1966. Alors... Donc, il était dans une école à Bar-au-Loup, puis à Vence, hein, et il a développé, donc, avec l'aide de sa femme, Élise Freinet, en collaboration avec un réseau d'instituteurs, toute une série de techniques pédagogiques basées sur l'expression libre des enfants. Donc, texte libre, dessin libre, correspondance interscolaire, imprimerie et journal scolaire, enquête, réunion de coopérative, etc. Donc, c'était un militant engagé, politiquement et syndicalement, à une époque marquée quand même par les forts conflits idéologiques. Il va donc concevoir l'éducation comme un moyen de progrès et d'émancipation politique et civique. Alors son nom reste attaché à la pédagogie Freinet, qui se perpétue de nos jours, notamment via le mouvement de l'école moderne, et tandis que certaines techniques développées par Freinet ont pénétré l'institution scolaire, hein, comme elles ont également inspiré la pédagogie institutionnelle et des approches plus libertaires, autogestionnaires. Et donc l'école Freinet de Vence est devenue publique en 1991 et elle est classée au patrimoine de l'UNESCO. Pas moins. Hein. C'est beau. Voilà. Et donc, alors, qu'est-ce que je pourrais ajouter sur l'école freinée? Donc, c'est lui qui a mis au point la méthode naturelle, hein, donc, ce qui est basé sur l'intérêt et les centres de motivation de l'enfant. Et voilà. Donc, c'est un apprentissage par tâtonnement où l'enfant est acteur de son propre chemin. Donc, il y a des choses qui ressemblent un peu aussi à la méthode Montessori, quoi.
Alors, la femme de Célestin Battistin a joué un rôle très important, hein, dans le développement de cette méthode-là. Mais il y a un moment où elle s'est plus intéressée, en fait, à l'enseignement artistique.
Ah oui,
donc, elle a développé des choses, à ce niveau-là. Mais elle a beaucoup soutenu tout le travail. Parce qu'on parle toujours de monsieur, mais je voulais dire un mot sur...
Mais madame, c'est beaucoup, beaucoup participé. Alors, d'ailleurs, il existe un film, je ne sais plus comment il s'appelle, j'aurais dû noter. Mais il y a un film sur Célestin Freinet.
Ah oui,
assez récent, oui. Et donc, c'était juste pour revenir un petit peu sur Ovid, donc Jean de Croly, qui lui est, donc on avait dit la dernière fois, un pédagogue, médecin, psychologue belge, donc qui va, lui, lutte pour la réforme profonde de l'enseignement, qui est basée sur la méthode globale d'apprentissage, dont la lecture et l'écriture sont comprises dans l'ensemble des activités pédagogiques et non des disciplines à part. Il va donc participer par ses travaux au mouvement de l'éducation nouvelle, et va adhérer à la Ligue internationale pour l'éducation nouvelle. Alors, en quelques phrases clés, hein, la pédagogie de Croly va reposer sur quatre fondements. La globalisation, c'est-à-dire l'affirmation que l'enfant apprend globalement. Donc, c'est une approche complète qu'il faut permettre à l'enfant pour qu'il fasse ensuite au particularisme et à l'analyse. Hein, voilà. Alors, en deuxième lieu, donc, les centres d'intérêt de l'enfant sont le guide de son éducation. Et donc, l'importance de l'environnement naturel qui permet à l'enfant, dans une situation de découverte, donc c'est pour ça qu'on va l'emmener à l'extérieur, etc. Et donc, quatrièmement, l'école atelier ou classe laboratoire dans laquelle l'enfant vit et agit. Bon, et donc, évidemment, cette classe va déborder de l'école. Donc, de Croly va préconiser l'éclatement des lieux d'apprentissage. Donc, il faut aller à la cuisine, à l'atelier, dans les magasins, dans la rue. Et ainsi se réalise un concept de base de l'école, du concret vers l'abstrait. Voilà. Alors, en France, il y a, à côté de Paris, à Saint-Mandé, il y a une école et un collège qui existent depuis 1945. Alors, en fait, toutes ces méthodes, c'est vrai qu'il y a quand même certaines choses communes, hein, qu'on peut retrouver dans ces différents enseignements.
Peut-être qu'on peut déjà faire remarquer que tout ce qui est apprentissage, ça commence très, très tôt. Ça commence même in utero, quand même. Donc, pour rester... les méthodes, c'est important. C'est un repère aussi. Une méthode, c'est un repère pour la personne qui va enseigner ou rééduquer. C'est un repère aussi pour la personne qui va bénéficier de la méthode.
Voilà, dans la progression.
Etc. Donc, il y a d'autres moyens d'apprendre. Et dès qu'on est in utero, très tôt, bien avant la fin de la grossesse, l'enfant reçoit des informations sensorielles, notamment auditives. Enfin, voilà, et le système mature auditif, il est mature avant la naissance. Donc, tout ça, c'est... On apprend plein de choses. On apprend à s'asseoir, à marcher... Voilà, donc le processus d'apprentissage, c'est quelque chose
Il
est permanent et ça fait intervenir plein de choses. Effectivement, il y a dedans, les approches pédagogiques vont intervenir, mais il y a aussi les compétences, les capacités de concentration, l'intérêt, les centres d'intérêt de l'enfant, l'ambiance dans laquelle, c'est quand même extrêmement important aussi, l'ambiance dans laquelle les apprentissages se font. C'est indépendamment de la méthode, parce que, on peut avoir une bonne méthode pleine de bonnes intentions, et puis à côté, avoir une structure qui fonctionne différemment. Un enfant qui va... C'est peut-être un petit peu la fin, là. L'imitation aussi, ça existe. Dans les processus d'apprentissage, il y a aussi l'imitation. C'est quelque chose d'important. D'ailleurs, un enfant qui ne sait pas imiter, c'est quand même un problème.
Bah oui, oui.
Donc
on apprend, on montre et puis on fait pas.
On voit indirectement aussi, même pas. On observe. Et du coup, on a envie d'imiter. Voilà. Donc tout ça, le bien-être, la confiance en soi, tout ça, ça va intervenir dans les processus d'apprentissage. Bah, oui. Donc les méthodes, c'est bien, tout en gardant à l'esprit que c'est un outil supplémentaire pour cadrer un peu les choses et puis savoir un peu où on en est aussi, effectivement. Mais ça reste un outil. Voilà. C'est pas, il y a pas une méthode excellente, puis voilà, les autres sont toutes mauvaises. Quoi. Voilà. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça dans la vraie vie.
Souvent, voilà, c'est un peu un mélange de tout ça, de toute façon.
Il y a beaucoup d'instituteurs
ou de professeurs, qui.
En matière d'éducation, de rééducation, beaucoup de méthodes sont reprises après par les personnes qui exercent avec souplesse, on dirait. En fonction des enfants, des situations, de leur affinité.
Et puis après le tout, c'est de bien sentir avec ce qu'on fait et puis avec ce qu'on apprend.
L'autre truc qui pose problème, c'est que dans toutes ces méthodes d'apprentissage ou de rééducation, parce qu'on peut la rééducation, c'est aussi pour permettre des apprentissages, c'est que on a toujours des études qui montrent que c'est bénéfique. Mais des études comparatives menées correctement en double aveugle, machin, etc., et truc, on n'en a pas quand même, pour bien être clair là-dessus. Hein. Donc, voilà, il faut relativiser.
Tout n'est pas tout beau, tout bien.
Bon, si une méthode convient à un enfant, tant mieux.
Si ça s'entend mieux. Voilà. Bon, merci de ces éclaircissements, docteur Yaya. Et donc, à très bientôt dans une prochaine émission.
Au revoir.
Vous êtes comme une poule qui a trouvé un couteau en entendant ou en lisant les conseils éducatifs, parfois contradictoires des spécialistes?
Eh bien, adressez-nous vos interrogations ou vos réflexions sur le site de Principe Actif en précisant l'émission Les Mères Poules.
Nous en débattrons lors d'une prochaine émission.